La première fois, je vous ai rappelé les quelques grandes positions sur le problème de la personne. Comment le problème de la personne s'est posé dans la philosophie grecque, comment le problème de la personne a pris une importance très grande en théologie, chez les pères de l'Église et chez les théologiens du Moyen-Âge. Comment le problème de la personne reprend de nos jours une très grande importance. Alors, je vous avais cité Max Scheler, Mounier, Maritain. Et il y a là une étude qui serait très intéressante à faire, c'est bien évident. Parce qu'on voit comment le problème se pose dans la perspective, si vous voulez, de la féminologie et dans la perspective de la politique. Pour essayer de comprendre ce que représente exactement l'insertion de l'homme dans la communauté humaine. C'est comme ça, de fait, que se pose le problème de la personne avec Maritain et avec Mounier. Comment, d'autre part, en théologie, le problème de la personne s'est reposé avec beaucoup de force à propos de la morale. C'est à peu près parallèle, du reste. Voir comment on oppose une morale personnaliste et une morale de la nature. Et je crois que ça, c'est important à souligner, parce que c'est quand même un des grands problèmes de la théologie morale d'aujourd'hui. Est-ce que le problème de la personne, qui est le centre de la responsabilité, qui est une subjectivité transcendantale, ne va-t-il pas de fait faire que il n'y a plus rien au sens strict d'objectif? L'obligation morale ne doit plus se comprendre d'une manière objective, mais doit se comprendre dans la perspective de la subjectivité transcendantale. Vous voyez, au fond, nous aurions ce fameux problème de la morale de, morale de situation telle qu'on le voit chez Sartre, qui, de fait, je crois, est un problème qui se relie au problème de la personne, à la différence de la nature, qui maintient les lois objectives de la nature. Bon, il faut reconnaître qu'il y a là un problème qui est important, intéressant et qui est très difficile à bien régler. C'est bien évident. C'est pour ça que la morale, la théologie morale aujourd'hui, on le dit, elle est en crise. Elle ne sait pas très bien où elle doit aller. Alors vous avez toutes les positions possibles. C'est la même chose pour l'éthique, pour la philosophie morale. C'est qu'au fond, le problème n'a pas été repensé après Nietzsche, qui a battu en brèche Kant. On est resté sur la morale kantienne. La morale kantienne était un succès d'année de la morale stoïcienne. Et on peut dire que la morale stoïcienne a pris une importance très grande. Alors n'oubliez pas que ce sont les stoïciens qui, les premiers, ont mis en pleine lumière le problème de la personne. Donc il y a un lien entre personne et morale. Ce que je vous disais au début de ce cours sur la personne, c'est important de voir comment le problème de la personne va faire le lien entre la philosophie première, la métaphysique, et l'éthique. C'est à l'intérieur du problème de la personne qu'on peut comprendre le lien entre les deux. Qu'on peut comprendre comment ou une philosophie s'achève dans une anthropologie, ou une philosophie implique une anthropologie, mais dépasse l'anthropologie. Alors là, il faut arriver petit à petit soi-même en avoir une conviction. Il ne faut pas seulement répéter les opinions de ceux qui sont pour d'un côté et qui sont de l'autre. Il faut comprendre. Vous voyez, comme Karl Rahner dit, par exemple, le grand tournant de la théologie moderne, contemporaine, le grand tournant, c'est l'anthropologie. L'anthropologie qui remplace la métaphysique. Et Heidegger dit l'inverse. Il ne faut pas l'oublier. Heidegger dit qu'une anthropologie ne peut pas supplanter la connaissance de l'être, la pensée l'être. Mais évidemment, il considère que la métaphysique est terminée et que la métaphysique doit être dépassée par penser l'être. Vous voyez ? Alors, Karl Rahner reste entre les deux. la métaphysique est dépassée, c'est l'anthropologie qui prend la succession, mais il ne voit pas qu'il y a un nouveau problème, penser l'être. Alors, nous allons essayer ensemble, dans la mesure du possible, d'essayer de comprendre comment la philosophie première s'achève sur la considération de la personne humaine. Alors, comme toujours, au plan philosophique, il faut revenir à nos expériences. Si nous ne revenons pas à nos expériences, nous faisons qu'une histoire de la philosophie. Alors, revenons à nos expériences, revenons aux grandes expériences humaines que nous avons déjà vues. Alors, je vais être très rapide là-dessus, parce que nous avions vu, ce n'est pas la peine de la voir indéfiniment, mais de comprendre comment le problème de la personne se fait à partir de l'expérience du travail. C'est l'homme. Autrement dit, toutes les parties de la philosophie s'achèvent dans une anthropologie. Et que, de fait, la philosophie première s'achève dans le problème de la personne. Je crois que c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est ça le problème intéressant et important. Alors, je vais simplement souligner ici ce que vous savez déjà, du moins la plupart d'entre vous, je l'espère, et qui est important à souligner. C'est de souligner tous les niveaux de l'anthropologie. Chaque partie de la philosophie s'achève dans une anthropologie. Vous avez donc la philosophie du travail qui s'achève dans l'anthropologie de l'homme travailleur. L'homo faber. Vous avez l'expérience de l'amitié qui s'achève dans le point de vue de l'homme éthique. Vous avez la philosophie de la communauté qui s'achève dans l'homme politique. Donc vous avez là trois dimensions de l'anthropologie, qui sont les trois dimensions fondamentales de l'anthropologie. On ne peut pas faire une anthropologie sans ces trois dimensions. Je crois que c'est absolument impossible. Vous voyez bien que ces trois dimensions implique quelque chose de commun. Si vous vous souvenez, je vous avais dit, c'est important pour souligner et pour saisir le point de départ et le terme de la philosophie première. Nous avions vu la philosophie première naissait nécessairement du fait que l'expérience, le travail, le point de vue de l'amour d'amitié, le point de vue de la coopération, ces trois expériences avaient quelque chose de commun, impliquer le jugement d'existence. Puis j'avais complété que ces expériences premières et fondamentales s'achevaient dans l'expérience de la matière, dans l'expérience du vivant, et que ces deux expériences impliquent elles aussi fondamentalement le jugement d'existence. Autrement dit, ces cinq grandes expériences impliquent le jugement d'existence, qui sont quelque chose de commun. Et c'est parce que ces cinq grandes expériences humaines impliquent quelque chose de commun, il faut nécessairement avoir un moment de réflexion sur ce que représente le jugement d'existence considéré pour lui-même. Le jugement d'existence, ceci est. Et c'est à partir de là qu'était apparue l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Bon, j'espère que ça, vous commencez à le saisir. Ceci montre le point de départ de la philosophie première. Je reprends maintenant, après toute cette analyse, ces différentes expériences, non plus par le jugement d'existence, mais par ce qui est au point de départ de ces expériences. C'est l'homme qui travaille. C'est l'homme qui aime. C'est l'homme qui coopère. Il y a donc quelque chose de commun à ces différentes expériences, non plus l'aspect fondamental, mais l'aspect de la source. L'homme est capable de travailler. L'homme est capable d'aimer. L'homme est capable de coopérer. Donc, ces trois expériences, si je veux les épuiser, le philosophe a comme caractère particulier d'aller jusqu'au bout de toutes les exigences. Autrement, il n'est pas philosophe. Il ne peut jamais s'arrêter à ce point de vue-là. Il doit nécessairement une expérience la regarder de multiples manières. L'expérience du travail, je peux la regarder en tant qu'elle me montre la transformation de la matière. Qu'est-ce que c'est que le travail ? Transformer la matière. Je peux regarder l'expérience du travail en tant qu'elle montre une manière d'exister.
j'existe en travaillant.
Il y a des gens qui existent sans travailler, mais je peux exister en travaillant.
Ça, c'est une manière d'exister. J'existe en travaillant. Et le travail, je peux le considérer, d'où vient la source du travail?
L'homme.
L'homo faber. L'homme travaillant.
L'homme aimant. L'homme coopérant.
Il y a donc une dimension qu'il faut regarder, qui est une dimension commune, analogue à l'aspect commun du jugement d'existence. Et c'est ça que je voudrais que vous compreniez. Il y a quelque chose de commun, ce qui montre bien que l'anthropologie a des dimensions différentes. Une anthropologie philosophique, elle a la dimension du travail. Je ne peux pas connaître l'homme si je ne regarde pas le travail, si je ne regarde pas l'homme travaillant. Je n'ai pas le droit de mettre entre parenthèses le travail en disant « ça, ça n'a rien à voir avec l'homme ». Pas du tout. Le travail est naturel à l'homme. C'est un développement naturel de l'homme. Je ne peux pas mettre entre parenthèses l'amour d'amitié. Je ne peux pas mettre entre parenthèses la coopération. Bien, ici, je fais la même chose. Quand je regarde la nature, j'ai le point de vue du corps. Quand je regarde la matière, j'ai le point de vue du corps. L'homme est partie de l'univers par son corps. C'est une dimension de l'anthropologie. Je suis dans un milieu donné, et ce milieu, c'est l'univers. Et je fais partie de cet univers. Et là, je pâtis. Vous voyez, si j'étais en dehors de l'univers, je pourrais ne pas être conditionné par le temps et le lieu. Je suis conditionné par le temps et le lieu. Ce qui limite terriblement ma personne, parce que ça montre mon individualité. Mon individualité, elle se marque par le point de vue du temps et du lieu. Et ça, c'est très vrai. C'est la limite de ma personne. Vous voyez, le problème de l'individu et de la personne vu par le point de vue du corps. Le pape disait, il faut une philosophie du corps. On comprend très bien, il faut une philosophie du corps. Si je veux étudier l'homme parfaitement, il faut une philosophie du corps. C'est-à-dire comment je suis inséré dans ce milieu et comment je suis conditionné par cet univers, le conditionnement du temps et le conditionnement du lieu, espace. C'est important d'étudier le corps et le temps, non pas l'être et le temps, mais le corps et le temps, l'homme et le temps. C'est important de voir ça, il y a toute une grande étude à comprendre cela, c'est bien évident. Je suis né à tel moment, j'en peux rien, et vous non plus. Je suis né, et ceci conditionne des quantités de choses. Comme on dit en Suisse, on est contemporain, on est né la même année. Alors on est contemporain, ça permet de faire des voyages ensemble. N'est-ce pas ? Donc ça conditionne la personne humaine et l'individu. Ça fait quand même un conditionnement particulier. On se retrouve plus facilement quand on est de la même génération que quand on est d'autres générations. C'est comme pour le vin. Il y a des bonnes années, des mauvaises années. Alors, il y a des années bonnes, on sait très bien. Le corps sera particulièrement parfait. Et le sang sera bon parce qu'il y aura cette détermination conditionnée par le temps, conditionnée par le lieu. C'est le corps, la philosophie du corps. Et puis alors, le vivant... L'homme est le vivant parfait, c'est vrai. Lui aussi dans un milieu, mais les deux aspects sont en opposition. Qu'est-ce qui unit ? C'est que c'est le corps humain et que c'est le vivant humain, donc c'est encore l'homme. J'ai donc cinq dimensions, non seulement pour montrer le fondement du jugement d'existence, mais pour montrer la signification dernière de ces cinq grandes expériences. Curieux, le problème de l'homme apparaît directement à travers ces cinq grandes expériences. Oui. Le point de départ, jugement d'existence, le terme l'homme. Alors, la métaphysique est née à partir du point de vue ceci est. Je vais me demander maintenant, qu'est-ce que la métaphysique me dit de l'homme ? Toutes les études que j'ai faites, toutes les analyses métaphysiques que j'ai faites jusque maintenant, est-ce qu'elles me permettent de mieux connaître l'homme ? Cet homme que je considère comme l'homme travailleur, l'homme capable d'amitié, l'homme coopérant, l'homme partie de l'univers, l'homme le vivant supérieur, est-ce que la métaphysique me dit quelque chose de nouveau sur l'homme? Si la métaphysique ne me dit rien de nouveau sur l'homme, pourquoi la métaphysique? Et c'est vrai, pourquoi la philosophie première? Vous voyez, je crois que c'est parce qu'on n'a pas eu le souci dans la scolastique de montrer que la métaphysique s'achevait dans l'homme, qu'on a considéré que la métaphysique ne signifiait rien du tout. Alors l'anthropologie est arrivée, elle a remplacé la métaphysique. Et je comprends. Si on avait eu le souci de montrer que la métaphysique me permettait de dire quelque chose de l'homme, alors à ce moment-là, j'aurais compris la signification de la philosophie première. Oui, c'est pour ça que c'est très important cela, c'est très important, non pas d'une façon apologétique pour montrer l'importance de la philosophie première, mais c'est pour donner la signification plénière à la philosophie première. La philosophie première me permet de regarder ce que c'est que l'homme. Alors on va essayer de comprendre, qu'est-ce que la philosophie première me permet de dire de l'homme? Ceci c'est pour vous montrer comment toutes les parties de la philosophie sont ordonnées à cela. Et donc, si toutes les parties de la philosophie antérieure à la philosophie première sont ordonnées à la connaissance de l'homme, je dois me poser la question. Qu'est-ce que la philosophie première me permet de dire de l'homme? Nous avons vu que les deux grands axes de la philosophie première, oui, si c'est une application, c'est très simple, hein, il n'y a plus qu'à ceux qui ont compris ce que c'est que les deux grands axes de la métaphysique et le point terminal de la métaphysique vont tout de suite comprendre comment nous faisons une application. Oui, c'est le comment de la métaphysique. Alors, en grec, le pos. Ce n'est pas le tiesti. Le tiesti me conduit à saisir. Vous comprenez bien la différence entre le pos et le tiesti. Hein? Le pos, c'est le comment, et le tiesti, c'est qu'est-ce. Le tiesti conduit à découvrir les principes propres et le pose la manière d'exister. La manière d'exister. Comment les choses existent. Oui, cette petite distinction que la scolastique a laissée tomber parce qu'elle a été une laïcisation de la théologie et qu'en théologie, on ne pose plus la question. Parce que le théologien ne connaît pas le tiesti de Dieu. Donc il ne peut connaître que le pose. Comment est Dieu? Et c'est pour ça que le théologien, au bout d'un certain temps, quand il n'est pas philosophe, il oublie la recherche des principes. Ça fait comprendre des quantités de choses. Et comment le théologien, alors, est conduit au positivisme? Parce que le positivisme, c'est de regarder uniquement le comment. C'est très curieux que la théologie a une alliance avec le positivisme. Parce qu'elle ne recherche que le comment. C'est un super positivisme. Vous voyez dans quel sens il faut le dire. Hein? C'est un super positivisme. Mais si elle n'est plus le super parce qu'elle ne reçoit pas et elle n'accepte pas la métaphysique, alors elle tombe dans un positivisme. Il y a quelque chose de commun. C'est curieux. Alors, je me pose la question, comment l'être de l'homme? Puisque toute la métaphysique est pour rechercher qu'est-ce que c'est que l'être, maintenant je m'intéresse à l'homme et je me pose le comment de l'être de l'homme. Comment cet être le plus parfait que j'expérimente, parce que de fait c'est le plus parfait que j'expérimente, je l'expérimente comme travaillant, je l'expérimente comme ami, je l'expérimente comme celui avec qui je peux coopérer, je l'expérimente comme partie de l'univers, je l'expérimente comme vivant. Comment cet être le plus parfait que j'expérimente, je ne peux pas expérimenter un être plus parfait que l'homme. Et en définitive, moi, humblement, hein, faut toujours se dire ça, parce qu'au point de vue métaphysique, je suis quand même le premier à être expérimenté. C'est l'avantage du métaphysicien, c'est qu'il emporte avec lui son laboratoire. Il ne peut pas emporter sa bibliothèque, mais il emporte son laboratoire. Alors, si il a le souci de réfléchir toujours sur la réalité, il réfléchit tout le temps. Le métaphysicien réfléchit tout le temps. Parce qu'il a son laboratoire avec lui. Puisque son laboratoire, c'est sa propre expérience. Et alors, l'avantage, c'est qu'il contacte les autres,
Et en contactant les autres, il se connaît lui-même mieux. Parce qu'il voit qu'il y a des sympathies, il voit qu'il y a des antipathies. Il peut se poser la question, comment se fait-il que mon être suscite tellement d'antipathies et tellement de sympathies? C'est quand même très curieux. Indépendamment de ce que je désire, c'est comme ça. C'est un drôle de bonhomme, hein, au point de vue de mon être. Et chacun d'entre nous, comme ça. Et plus nous sommes vivants, plus nous suscitons des sympathies grandes et des antipathies non moins grandes. Il n'y a que le petit être qui est horizontal, qui alors lui passe partout. C'est pas pourquoi, on ne le voit pas passer, il suscite aucun contraste parce qu'il est déjà tellement émoussé. En tant qu'homme, très émoussé. Alors, parce qu'il est très. Mais ne cherchons pas l'originalité pour susciter. Je suis un grand bonhomme parce que je suscite des oppositions. Non, pas toujours. Il ne faut pas renverser tout le temps. Il y a quand même quelque chose de spécial. Donc, la grande expérience, c'est l'homme, du point de vue de l'être. L'homme est donc, premièrement, si je le regarde au point de vue métaphysique, au point de vue philosophie première, il est premièrement ousia. C'est-à-dire qu'il y a en lui une âme spirituelle qui est sa substance. Je peux le dire tout de suite, puisque nous avons vu précédemment les rapports entre la substance et l'âme. Eh bien, il y a en l'homme, et c'est son caractère propre, une âme spirituelle. Que fait cette âme spirituelle dans sa manière d'exister ? Vous voyez, je ne cherche plus ici uniquement l'âme spirituelle pour savoir ce qu'elle est, ceci est présupposé, connu. Mais comment ce vivant particulier qui implique une âme spirituelle, comment va-t-il exister? Quelle est sa manière propre d'exister? Sa manière propre d'exister, c'est d'impliquer, grâce à son âme spirituelle, une autonomie parfaite. C'est la première dimension que je saisis. Et c'est très intéressant de saisir cela. Grâce à mon âme spirituelle, j'ai une autonomie dans mon être. Parce que mon âme spirituelle est substance, et elle est substance par elle-même. Elle n'est pas substance grâce au corps. C'est ça qui est très important. Elle est substance par elle-même. Elle subsiste par elle-même, comme âme spirituelle. Évidemment, de fait, elle subsiste dans le corps, mais elle a cette qualité, cette noblesse particulière de subsister par elle-même. Bon, ce sont des problèmes très difficiles, nous le savons bien, nous l'avons effleuré, ce sont des problèmes très difficiles, mais très importants quand il s'agit de réfléchir sur ce que c'est que la personne humaine. La personne humaine est d'abord une âme spirituelle qui subsiste par elle-même et qui subsiste dans un corps. Et par le corps, elle est parfaitement individualisée. Ma personne humaine, c'est mon individu. Donc n'opposons surtout pas personne et individu. Parce que ma substance spirituelle, ce qui me donne mon autonomie dans l'ordre de l'être, de fait, se réalise dans mon corps. De fait, c'est comme ça. Je n'ai jamais eu l'expérience de mon âme séparée. Et vous non plus, j'espère. Si vous l'avez eu, vous pourriez faire une petite topo là-dessus la fois prochaine, n'est-ce pas ? J'ai eu l'expérience de mon âme séparée. Alors on verrait si vous êtes fou, si vous êtes absolument un peu décalé du réel, parce que ça peut expérimenter. On peut avoir comme une espèce d'expérience dans un rêve, dans un cauchemar. On a son âme qui s'échappe de son corps, qui plane. Ça arrive, les cauchemars. Il y a des cauchemars comme ça, angéliques, n'est-ce pas ? Et puis il y a des cauchemars, au contraire, dans la fosse. Qui sont justement le fait du corps. On est complètement plongé dans le corps. C'est curieux, hein, que les rêves peuvent faire une scission entre les deux. Tandis que la réalité montre qu'il y a une autonomie dans l'ordre de l'être, grâce à mon âme spirituelle, grâce à mon ousia.
ma substance, qui est mon âme spirituelle,
me donne une indépendance radicale dans l'ordre de l'être.
Voilà ce que je dois dire. Je n'ai pas encore posé le problème du Créateur.
Parce que je ne saisis pas directement le Créateur. Tandis que je saisis qu'il y a une autonomie en moi. Il ne faut jamais l'oublier. Vous saisissez d'abord votre autonomie dans l'ordre de l'être, avant de saisir que vous êtes créé par Dieu. Et c'est par là que vous rejoignez les athées. Il faut leur donner la main, là.
Tandis que si vous disiez que vous saisissiez d'abord votre limite dans l'ordre de l'être, vous êtes dans l'ontologisme en opposition avec les athées.
Tandis que là, vous reconnaissez, c'est très vrai, il y a une autonomie fondamentale dans mon être. Et mon autonomie fondamentale dans mon être, c'est ma substance.
Vous voyez que vous rejoignez ici ce que nous avions vu au niveau psychologique la dernière fois, ce que Audier disait, les sentiments du moi, le premier sentiment du moi, l'autonomie. Ici, je donne le fondement de ce sentiment du moi. Il y a en moi une autonomie radicale qui est l'autonomie de la substance. Et cette autonomie radicale de la substance, c'est justement mon âme spirituelle. C'est mon âme spirituelle qui, de fait, est à la source de cette autonomie radicale. Et cette âme spirituelle, de fait, est liée au corps. Je ne dis pas est aliénée par le corps. Non. Elle est individualisée par le corps. Et par le corps, et à cause du corps, elle devient partie d'un tout. Tout de suite, je vois ça. Elle devient partie d'un tout, par le corps.
Alors vous voyez comment j'assume les autres parties de la philosophie, mais je les assume par mon âme spirituelle et par ma substance. C'est la substance qui fait l'unité entre l'autonomie et la dépendance. C'est ça qui est très très curieux. Il ne faut pas dialectiquement opposer autonomie et indépendance comme si autonomie et aliénation étaient sur le même plan. C'est sur deux plans différents. C'est l'autonomie qui est première. Mais cette autonomie de mon âme spirituelle va se réaliser dans un corps par où je suis dépendant d'un tout. Par où je suis limité relativement à ce tout, c'est-à-dire relativement à l'univers. Et je vois que c'est la même chose. La dépendance est substantielle. Et l'autonomie est substantielle. C'est vrai, mon corps fait partie de ma substance. Mon corps n'est pas un accident. Si mon corps était un accident, je pourrais laisser tomber cette espèce de limite et dire, viens, je vais uniquement vivre dans mon autonomie spirituelle. Vous voyez le platonisme. Au fond, Platon a eu ça, il a eu une espèce de désir intense d'autonomie, alors il a voulu laisser son corps en disant que le corps c'est la prison. Corps, c'est le tombeau. C'est le tombeau dans lequel je suis. Non, pas du tout. Il faut réhabiliter la philosophie du corps. Et il faut comprendre que le corps fait partie d'une limite substantielle. Et que cette limite substantielle n'est pas une aliénation. Ça fait partie essentielle de ce que je suis. En tant que
je suis un certain être, du point de vue de l'être, donc du point de vue de la philosophie première.
Du point de vue de la philosophie première, l'autonomie et la limite vont de pair. L'autonomie et la limite sont toutes les deux substantielles. Vous voyez ? Au niveau psychologique, autonomie et limite sont en rivalité. Au niveau métaphysique, autonomie et limitation vont de pair et ont leur source dans la substance individualisée. La substance individualisée implique à la fois comme substance l'autonomie, en tant qu'individualité la limite. Et donc l'être est au-dessus de l'opposition autonomie-limite. Ça c'est capital à comprendre, très important à comprendre. Parce que ça me permet de maintenir mon unité à l'intérieur de mon individuation. ça me permet de comprendre que je ne peux pas séparer personne et individu, et que je dois toujours les unir. Métaphysiquement, les deux sont intimement unis. Je ne peux pas les séparer. Donc, première constatation, je crois que celle-ci est facile, mais c'est toute la philosophie première de la substance que j'assume. Ma personne, c'est ma substance. Ma personne, c'est ma substance individualisée. Vous voyez, je rejoins la grande définition de Boès. Mais je la rejoins d'un point de vue métaphysique et pas d'un point de vue théologique. Je la repense par le point de vue de l'ousia, et je la repense par le point de vue du corps. Je la repense par l'âme spirituelle et par le corps, en voyant l'unité substantielle.
Deuxième partie, le grand axe de l'acte.
La métaphysique, c'est-à-dire la recherche de ce qui est, c'est la découverte de la substance et la découverte de l'être en acte. L'être en acte qui est fin. Nous l'avions vu, pas la peine de reprendre. Et nous avions vu que cette métaphysique de l'acte implique cinq modalités. Je les rappelle ici pour que vous les voyez mieux comment l'application va se faire par rapport à l'homme. Cinq modalités, c'est-à-dire le point de vue de l'exister, le point de vue de l'essai, c'est l'acte substantiel. Il y a en moi un acte substantiel, mon exister. Mon exister est quelque chose de substantiel. Même si cet exister a un mode contingent, il est premièrement substantiel.
Ensuite, nous avions vu le bien, puis le vrai, les opérations vitales et le point de vue du mouvement. Voilà les cinq modalités de l'acte.
Je ne crois pas qu'il y en a plus, qu'il y en a d'autres. Je vous ai demandé de chercher et puis de me les dire si vous en trouviez d'autres. C'est vrai, c'est intéressant de réfléchir là-dessus. Parce que vous pourriez dire, ah, mais il y a le beau. Vous voyez, les partisans du beau, ils reviennent tout le temps, n'est-ce pas ? Il y a le beau.
Alors, le beau, est-ce que le beau est une modalité de l'acte ?
Ah, mais il y a l'œuvre. Est-ce que l'œuvre est une modalité de l'acte ? Eh bien, non.
Je l'ai mis exprès entre parenthèses.
Dans une perspective un peu trop féminologique, on mettra le beau et l'œuvre. C'est intéressant à voir, ça. Ce sont des perspectives qui sont intéressantes parce que c'est des points de contact de mettre comme modalité de l'acte. Vous voyez, on le mettrait ici, entre les deux. C'est vrai que l'œuvre est une certaine fin, donc c'est un certain acte. C'est vrai que le beau est quelque chose de parfait, donc c'est un certain acte, le beau et l'œuvre. Eh bien, non. Si on pousse jusqu'au bout, on voit que le beau et l'œuvre ne sont pas des modalités de l'acte. Tandis que le mouvement est une modalité de l'acte. Très curieux. Il faut y réfléchir dessus. Hein. Bon, ben, nous l'avons vu dans la métaphysique de l'acte et de la puissance. Mais on oublie. Hein. Alors il faut reprendre. Il faut de nouveau essayer de repenser cela. Alors, je vais essayer de comprendre dans la perspective de la découverte de ce principe ultime de l'être qui est l'acte, qu'est-ce que c'est que l'homme ? L'homme qui est cette âme spirituelle qui anime le corps et qui donne cet individu qui a son autonomie. Puisqu'il y a l'âme spirituelle,
il y a donc quelque chose de particulier. C'est que l'homme, en tant qu'esprit,
l'homme, en tant qu'esprit, doit découvrir son bien, son bonheur. Un homme qui ne découvre pas quel est son bien propre n'est pas achevé, n'est pas pleinement ce qu'il doit être. Voyez, vous ne vous posez pas le problème du bonheur, du petit
petit chien.
On peut se poser. Parce que je l'aime beaucoup, ce petit chien. Quel est ton bonheur, hein? Et interrogez-le et demandez-lui quel est son bonheur, n'est-ce pas? Vous verrez que, de fait, son bonheur consiste tout simplement à pouvoir manger régulièrement et dormir régulièrement et vous suivre. C'est ça son bonheur. Le bonheur du petit toutou, c'est de suivre son maître, n'est-ce pas? Et il est bien avec ça. Alors il agite sa queue. C'est pas son bonheur. Pour l'homme, il y a un problème particulier parce qu'il y a un bien qui est propre à l'homme, qui est le bonheur. Ceci fait partie de la dimension de l'homme parce qu'il est esprit. Il y a donc quelque chose de particulier, on verra après. Il y a quelque chose de particulier pour l'homme, la recherche de la vérité, c'est vrai. Comme épanouissement. Évidemment, mon âme spirituelle existe dans mon corps, et donc l'existence dans le corps, c'est l'existence de l'individu, ce qu'on disait tout à l'heure. Et l'homme est un vivant. Il y a les opérations vitales. Et c'est quelqu'un qui implique un certain devenir parce qu'il a un corps. Ceci fait partie du conditionnement. Donc, les cinq modalités de l'acte regardent l'homme. Très bien, comprendre ça immédiatement. Ces cinq modalités de l'acte me permettent de comprendre ce que je suis. Et qu'est-ce que ces cinq modalités de l'acte vont me développer en moi? Vont me développer ce que représente ma finalité. La finalité propre de l'homme comme homme, c'est le bien, c'est son bien, atteindre son bien, c'est son bonheur. C'est la finalité propre de l'homme. Vous voyez? La fin de l'être, c'est l'acte. La fin de l'homme, c'est son bonheur. Bien saisir ça. Nous sommes au niveau du pons. Tandis qu'au niveau de l'être, nous sommes au niveau du tiesti. Donc, saisissez bien ces choses-là pour que vous compreniez ce que représente la recherche que nous faisons maintenant. Nous comprenons que l'homme n'est parfaitement lui-même que quand il atteint son bonheur. Il n'est parfaitement lui-même que quand il atteint son bonheur. Tant qu'il n'a pas atteint son bonheur, il n'est pas parfaitement homme. Parce qu'il n'est pas pleinement épanoui. Il peut subsister, il peut avoir son autonomie, il est un individu, mais il n'est pas parfaitement homme. L'homme demande d'atteindre son bonheur. Tant qu'il n'a pas atteint son bonheur, il est dans un état d'imperfection. Alors, je dois donc comprendre qu'est-ce que c'est que ce bonheur de l'homme. Là, je fais appel nécessairement à ce que, en éthique, j'ai découvert que le bonheur de l'homme, c'est l'amour d'amitié. Voilà sa fin. Sa fin peut être encore imparfaite, mais c'est quand même une véritable finalité, dans la mesure où il a atteint un autre et qu'il le considère comme son ami. Mais le problème de l'amitié joue un rôle très important jusque dans la philosophie première, puisqu'il me fait comprendre concrètement ce que c'est que le bien. C'est là où on voit comment l'éthique s'insère directement en philosophie première. Je ne peux pas aller jusqu'au bout de ma philosophie première s'il n'y a pas l'éthique. Et alors nous allons voir les conséquences par rapport au problème de l'homme. Donc, il y a ce point de vue-là. A-t-il la contemplation? Je ne peux pas encore le dire au plan philosophique, puisque je n'ai pas encore découvert l'existence de l'être premier. Si l'homme découvre l'existence de l'être premier, il va se poser la question, est-ce que son bonheur dernier n'est-il pas de le contempler? Parce que par rapport à l'ami humain, je ne peux pas dire que le bonheur de l'homme soit de contempler son ami. Non, c'est de l'aimer. Et c'est de coopérer avec lui, ce n'est pas la même chose.
très curieux du reste, ça.
Une mère peut contempler son enfant, mais ce n'est qu'une contemplation très limitée, parce que l'objet de cette contemplation est limité. Même si la mère voudrait qu'il ne soit pas limité, il est quand même limité. Et donc, au bout d'un certain temps, la contemplation demandera d'être dépassée par l'action. Et la mère comprendra que la contemplation de son enfant demande autre chose. Pourquoi ? Parce que l'objet de la contemplation est limité. Oui. Et c'est pour ça que, de fait, il faudra autre chose que cette contemplation. Et c'est la même chose par rapport à l'ami. Je peux contempler mon ami. Ah, comme j'aime de te regarder. Oui. Alors, il faut combien de temps ça va durer ? C'est ça. Parce qu'au fond, l'objet de la contemplation est limité, c'est l'ami. Et donc, au-delà de la contemplation, il y a l'amour d'amitié. C'est très intéressant pour comprendre la position de Platon. Comment la contemplation ne finalise pas la philosophie platonicienne. Parce que, de fait, on n'atteint pas véritablement un absolu. On n'atteint qu'une forme ou une superforme. C'est à cause de ça. Autrement, on devrait demeurer dans la contemplation. Donc, le problème de la contemplation se pose. Le problème de la vérité, la recherche de la vérité, c'est la recherche de l'intelligence. Alors, que vient faire la vérité par rapport à ce bonheur ? Ça, c'est très important. Et puis, le conditionnement. Je vois donc que si j'applique toute ma philosophie première à l'homme, je vois donc que je suis obligé de considérer que je découvre que l'homme n'est parfaitement homme que grâce au bonheur, grâce à la recherche de la vérité. Et qu'il y a un conditionnement terrible, c'est qu'il est dans le temps, les opérations vitales et le mouvement. Il est donc toujours limité, d'une certaine manière, sa vie biologique. Sa vie psychologique. Mais il y a un dépassement de sa vie biologique et de sa vie psychologique dans le fait d'acquérir le bonheur et de rechercher la vérité. Voilà les deux dépassements au niveau biologique et psychologique. C'est le point de vue du bien et du vrai. D'où l'importance, vous voyez, de ce bien et de ce vrai. Cette importance si grande. Parce que c'est là où il y a le dépassement. C'est là où il y a le dépassement. Dernier problème, je le cite simplement et puis nous y reviendrons demain. Dernier problème, le problème de l'un et du multiple. Je vois que l'homme, troisièmement, le problème de l'un et du multiple. Pour bien comprendre les trois problèmes qui sont autour de l'homme. Ici, j'ai ouvert le chantier. J'ouvre le chantier. Qu'est-ce qui termine ma philosophie première ? Le problème de la substance, de l'âme spirituelle et du corps. Le problème des cinq modalités de l'acte, le problème de l'un et du multiple. Alors il s'agit de faire la mayonnaise pour que ça marche bien. Et de comprendre qu'est-ce que je vais avoir au terme de tout cela. Parce que ce n'est pas simplement le plaisir de résumer tout, ça doit me donner une connaissance nouvelle de l'homme. Et c'est ça qui m'intéresse ici. Comment, sans la philosophie première, je n'aurai jamais cette connaissance. Ça qui me semble très important à voir. Alors, dernier problème, le problème de l'un du multiple. L'homme est le vivant le plus complexe qui soit. Tout le monde est d'accord là-dessus aujourd'hui. Donc, la plus grande complexité, la plus grande multiplicité. Il est un petit univers. Un petit cosmos. Et en même temps, il y a une recherche d'unité. L'homme ne peut pas se contenter de sa complexité. Donc, il ne peut pas se contenter d'être un terme de l'évolution. Parce que s'il était uniquement un terme de l'évolution, il regarderait sa complexité. Je suis l'animal le plus complexe qui soit. Je suis bien heureux dans ma complexité, puisque je suis au terme de l'évolution. Vous comprenez que dire ça, c'est abdiquer profondément ce qu'est l'homme. L'homme ne se définit pas par sa complexité, il se définit par son unité. Vous voyez, l'exigence du problème de l'un et du multiple. L'exigence de l'un et du multiple, donc je ne peux pas me définir par la complexité.
C'est très bien de regarder la complexité de l'homme. C'est très très bien, il faut la comprendre. Mais le problème de la multiplicité s'achève dans le problème de l'un. Nous l'avons vu au plan métaphysique. Et donc, si j'applique à la métaphysique le problème de l'un et du multiple, je vois tout de suite que je ne peux pas rester dans la complexité de l'homme et que je dois chercher son unité fondamentale. Son unité fondamentale qui est au niveau de l'ousia, qui est au niveau de l'acte. C'est par l'acte et par l'ousia que l'homme est un. Il est un donc par son âme spirituelle, il est un par le bien et le vrai. Nous continuerons demain.